Il est 18h, nous sommes le lundi 26 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, on dirait qu'on a 5 ans et qu'on est devant le sapin et qu'on aurait eu en cadeau un livre et un CD et qu'on serait vachement heureux, mais tellement heureux parce que l'un et l'autre sont magnifiques. Eh bien oui, aujourd'hui c'est le lendemain de Noël. Mes invités sont aujourd'hui donc écrivains et musiciens et ça tombe bien car j'ai adoré leurs livres et leurs CD. Ah, ben voilà, c'est fini. C'est déjà plus Noël, c'est pas grave. Bonjour Geoffrine Donadieu et Raphaël Sever.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour commencer dans cette merveilleuse ambiance de Noël. Vous appartenez à quelle équipe? Magie Noël ou Fête de fin d'année, quel enfer, je ne veux plus en entendre parler.
Oh, Magie de Noël, on essaye en tout cas.
Oui, Magie de Noël, et puis venant de l'Est de la France, c'est vraiment important.
C'est quoi? C'est les marchés de Noël, les lumières?
Marchés de Noël, le vin chaud, Saint-Nicolas.
Ah oui, ça commence plus tôt en plus.
Oh oui, on commence le 6 décembre.
Et vous, parce que vous venez de l'Ouest, on réunit aussi les deux côtés de la France. Vous venez de
ouais,
Bretagne, si
vrai,
j'ai bien, de Nantes, si j'ai bien lu.
Exactement. Ouais.
Là, il n'y a pas Saint-Nicolas, mais quand même.
Non, mais quand même, Noël, c'est toujours un moment de l'année vraiment que je trouve très très sympa. Et puis voilà, on essaye d'en profiter.
Très bien. Alors, Geoffrine Donadieu, vous avez publié Chienne et Louve chez Gallimard. C'est votre deuxième roman. Le premier, Une histoire de France, est en poche chez Folio maintenant. Vous aviez reçu à l'époque un excellent accueil critique. Est-ce que ça fait peur au moment de se mettre à l'écriture du deuxième?
Oui, ça fait peur parce que, comme vous le dites, il y avait une très belle presse et j'étais vraiment ravie. Mais c'est vrai qu'un premier roman, on le porte en soi pendant des années. Soudain, il jaillit et on se demande si nous ne sommes pas l'auteur d'un roman.
Vous aviez peur d'être tari? C'est pas très joli comme expression.
Oui.
De plus rien avoir à dire, de pas y arriver. On a plus peur au deuxième qu'au premier.
Ça, je savais que j'avais des choses à raconter, mais j'avais peur de décevoir. Et il y a vraiment, il m'a fallu quelques mois pour me dire, mais non, mais tu écris, avance, raconte ce que tu as à raconter et remets-toi au boulot.
Et il paraît que c'est la solution, toujours se remettre au boulot. Mais est-ce que c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur du premier Parce que là, on vous met une barrière. C'est un peu comme un sauteur, on appelle ça du saut en hauteur. Vous avez la barre à 5,20 m. Il faut arriver à 5,20 m. Là, si vous êtes à 4,90, tout le monde vous dira que ce n'est pas terrible.
Il était évident que j'avais envie de monter une marche avec la maison d'édition. Et je voulais aborder d'autres sujets, découvrir d'autres personnages également. Et puis, c'est un véritable défi de me mettre à écrire ce deuxième roman parce que le premier était extrêmement violent. Je parlais de pédophilie féminine, ce qui n'est pas un sujet, qui n'est pas du tout un sujet facile. Et je me suis dit, mais comment trouver un sujet aussi fort pour le deuxième?
Ah, vous aviez, c'est particulier, c'est pas le temps, comment dire, c'est trouver un sujet, oui, vous venez de le dire, trouver un sujet aussi fort de marquer autant, de peur de passer inaperçu si vous étiez dans une histoire d'amour classique, mettons, entre deux jeunes.
Passer inaperçu, sachant que, évidemment, j'espérais faire une deuxième rentrée littéraire. C'est entre
beaucoup,
480 et 580 livres, donc passer inaperçu, c'est souvent le cas pour tout le monde lors d'une rentrée littéraire.
Alors, est-ce que dès le début, vous aviez prévu ce diptyque, puisqu'on retrouve Romy dans Chienne et Louve, qui, moi, je ne l'ai pas lu, mais si j'ai bien compris, Histoire de France, ce sont les mêmes personnages. On comprend assez vite.
On suit Romy, on retrouve Romy dans le deuxième,
donc,
qui était l'héroïne du premier.
C'était prévu de raconter l'histoire de cette jeune fille et comment elle évoluait après cette enfance abîmée.
Oui, alors non, pas du tout. Je crois vraiment qu'un personnage nous habite et c'est lui qui choisit si oui ou non il a envie de partir. Moi, j'avais vraiment envie de passer à autre chose et je créais d'autres personnages.
Ça marchait pas.
Non, à chaque fois, c'était le même physique qui revenait, la même psychologie. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je mente à l'héroïne, ni à moi-même, ni au lecteur, et qu'il fallait que j'accepte de la reprendre. En revanche, je voulais vraiment que ce soit un roman qui se lise indépendamment du premier.
Ce qui est le cas, je peux en témoigner.
Bah, super, alors ça a marché. Mais c'est pour ça que j'ai changé le pronom, tous les personnages.
C'est-à-dire
secondaires.
Que le premier est écrit à la première personne?
Le premier est écrit à la troisième personne et le deuxième est écrit à la première personne.
Ah oui. Donc oui, le premier, elle raconte ce qui lui est arrivé.
Le premier, c'est vraiment une histoire de l'histoire des abus féminins. Enfin.
Et est-ce que vous pensez, pardon, c'est horrible de dire j'enchaîne, pardon. Est-ce que vous pensez que le prochain, elle est partie cette fois-là ou elle va peut-être revenir?
Elle est partie.
Ça, vous le savez?
Ça y est, je le sais.
Un peu comme votre héroïne d'ailleurs. Remis à la fin de Chienne, mais c'est bien ça, Chienne,
oui,
et Loup. Elle est partie, et il y a quelque chose qui part.
Ça y est, elle a rempli sa mission.
Alors je tourne autour parce que je trouve que c'est un livre qui est tellement cohérent. Je ne sais pas si ça vaut pas vrai. Pour moi, c'est un compliment, mais je ne sais pas si pour vous, ça en est un. C'est un peu un bloc. Je trouve que c'est très difficile de tirer des livres pour en parler. D'abord parce qu'il y a votre écriture. Alors on va d'abord parler de votre écriture. Vous avez fait le choix de cette écriture très vivante, très incarnée.
Romy est une jeune fille qui fait du théâtre, donc elle est toujours sur scène, elle est dans la vie, mais pour payer ses cours de théâtre, elle travaille dans un club de striptease à Pigalle où elle danse, elle s'effeuille et se prostitue occasionnellement. Donc je crois que lorsque j'écris, j'ai besoin d'avoir une musique, d'avoir un rythme, et j'ai pris beaucoup de cours de danse avec les danseuses du Crazy Horse, et j'avais sans cesse en tête cette petite musique, l'enchaînement des pas, des mouvements, et j'espérais retrouver ça dans mes phrases. Et quand j'écris, moi, la musique est très importante, donc je passe mon temps à danser pour que ce soit avant tout que mes phrases soient organiques, que ça vienne du ventre et que ce ne soit pas du tout cérébral. Donc
dansez votre livre.
Bah je danse mon livre, en fait, c'est ça. Je danse mon livre au lieu de...
Mais
de
on imagine, ouais. C'est très poétique. C'est-à-dire ouais. Que vous le relisez avec votre
corps.
Je leur lis,
ouais, je leur lis en dansant. Je tiens mes feuilles, je leur lis à voix haute. Je leur lis en chantant. Quand j'écris, j'ai besoin de musique classique, parce que ça me donne un rythme, en fait. Donc, que ce soit Mozart, Beethoven, qu'importe. Mais ça va m'aider à écrire.
Dans votre livre, il y a un titre dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est Free From Desire. Oui. C'était pas fait exprès, vous ne pouviez pas savoir que le titre de France allait le reprendre. Mais là, par exemple, cette musique-là, elle dit quelque chose du personnage ?
Oui.
De l'ambiance où elle est, du monde où elle vit ?
Oui, totalement, totalement. Puis d'une époque, d'un contexte social, la musique aussi va donner des indices, des indicateurs de l'environnement des personnages.
Et c'est vrai qu'on la voit aussi par la main. Paradoxalement, c'est par la musique qu'on la voit dans votre livre,
oui.
Par le rythme, ça marche très bien. Il est composé en trois parties, qui sont les trois années d'école au cours Florent. Est-ce que c'était parce que vous vouliez écrire un roman d'apprentissage ?
Oh non, je ne veux pas du tout cette idée. Je voulais juste suivre les trois années de formation et de voir jusqu'où aller l'héroïne, en fait, si elle, oui ou non, elle allait obtenir son diplôme de fin d'études. Et je voulais surtout montrer la cuisine intérieure d'une apprentie comédienne qui
Alors
désire
ça, vous
monter sur les planches
bien.
Et briller.
Vous connaissez très bien, vous l'avez vécu.
Ah oui, j'ai fait le cours Florent. C'est une formation de 3 ans.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, ça s'entend, vous posez très très bien votre voix. Donc ça, au moins,
merci.
Je sais, moi qui parfois ai des problèmes, il faudrait que j'aille au cours Florent pour apprendre. Mais vraiment, vous êtes passé par des étapes proches des siennes. Je ne parle pas dans la vie privée, ça ne nous regarde pas.
Non, mais dans l'écriture, bien sûr. Alors,
dans les doutes, dans la manière d'aborder les personnages aussi.
Oui, moi j'utilise vraiment les outils de la dramaturgie pour écrire, sauf que je ne monte pas sur scène, je préfère rester derrière l'écran, mon cahier, pour écrire.
Pardon, mais votre personnage aussi, on n'est pas sûr qu'elle va monter sur scène, et elle rêve aussi d'écrire, hein.
Bah, elle rêve d'écrire ses pièces de théâtre également, mais elle rêve vraiment d'être comédienne. Moi, ce n'était pas un rêve.
Ce roman, c'est l'histoire de Romy ou c'est l'histoire d'Odette ?
Eh bien, je pense que c'est...
Peut-être que je dise qui est Odette ou que vous disiez d'abord qui est Odette,
alors,
pardon.
Odette, c'est une femme qui va sur ses 90 ans et qui va héberger Romy en échange d'un loyer modeste et d'un petit peu de compagnie. Et Romy et Odette, malgré ces 70 années qui les séparent, se font l'effet d'un miroir, et c'est l'histoire de deux corps qui lâchent pour différentes raisons. Et je crois que ce livre appartient à la fois à Romy et à Odette, car elles sont vraiment en fusion.
Oui, parce que moi au début je pensais que c'est l'histoire de Romy, et c'est à l'arrivée à la fin je me suis dit mais c'est peut-être finalement l'histoire d'Odette qu'on vient de lire.
Peut-être.
Parce qu'elle est très mystérieuse cette Odette, mais aussi on la voit évoluer, elle ne change pas vraiment, elle reste assez fidèle à elle-même. Mais...
Parce qu'à 90 ans on change, c'est peut-être c'est fait.
Moi je suis ambitieux. Romy, alors elle a une particularité, c'est qu'elle multiplie les masques, elle est stripteaseuse, elle est colocataire, elle est aussi amoureuse, élève au cours Florent. Et le seul moment où on a l'impression qu'elle n'est plus un personnage, c'est quand elle est sur scène, où justement elle est un personnage. C'est le paradoxe du comédien façon Geoffrey de Donadieu, ça ?
Bah, je crois que quand elle est sur scène, elle trouve des réponses à toutes ces interrogations, et que les personnages l'aident à trouver une vérité. Alors, pas la vérité, mais une vérité. Mais je crois que lorsqu'on est passionné par le théâtre, par l'écriture, par la musique, on est habité par quelque chose qui nous dépasse. Et c'est cet état de transe qui est extrêmement jouissif.
Je vais faire quelque chose d'horrible pour vous, je vais lire un extrait. Pardonnez-moi d'avance, en plus j'ai légèrement un chat dans la gorge.
Mais je préfère que ce soit moi, vous, donc c'est très bien.
Alors, surtout que ça commence bizarrement. Un personnage me pénètre comme une queue, c'est violent, les premières fois sont douloureuses, la mise en condition est longue avant qu'il ne prenne possession de mon corps. Pour chacun de mes rôles, je me raconte une histoire. Certains sont sauvages, d'autres plus charnels, d'autres encore me traitent avec mépris. Nous nous apprivoisons, créons une chorégraphie. Je ne retrouve jamais les mêmes émotions d'un personnage à un autre. J'ai connu Ondine, l'éprise, Lucrèce Borgia, la cruelle, Sylvia la rusée, Titiana la joueuse, Electre la rebelle, Andromaque la boxeuse. Toutes ces femmes se coulent en moi, je suis leur jouet, une poupée qu'elles malmènent, délaissent, jettent, cassent. Ça me fait penser à ce que vous dites de Romy. Elle s'est coulée en vous.
Ah oui, totalement.
Et donc
oui.
C'est ce phénomène de possession, qui est ce que vous disiez, par les trans à l'instant.
Oui, mais je crois que je suis foncièrement habitée par mes personnages et que je ne suis jamais toute seule.
Au moins, vous ennuyez pas alors.
Non.
Mais elle non plus d'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle est habitée par ses personnages. Oui. Qu'à chaque fois qu'elle apprend, d'abord Tennessee Williams, après c'est, je sais plus, c'est la Locandia,
j'ai oublié, de Goldoni, après c'est Sabina, dans Parole et Guérison, de Christopher Hampton.
Qui est une pièce sur la psychanalyse,
oui,
de
c'est
ce que
ça.
J'en ai compris. Avec
Jung, Freud et Sabina Spielrein.
Je crois savoir. Au-delà des péripéties, il y a une chance du roman dont on a un peu parlé. Il y a une chose, en tout cas, qu'on sent que vous aimez ou que vous voulez faire, c'est d'écrire les corps, et notamment les corps des femmes à tous les âges. C'est votre projet littéraire, parler du corps des femmes ?
Je vous dirai ça à ma mort, après avoir écrit beaucoup de livres.
En tout cas, est-ce que c'est votre projet aujourd'hui ?
Pas forcément des femmes, mais juste des corps, comment un corps avance, comment un corps vieillit, le corps en lutte, le corps en guerre, et avec ses propres batailles, oui.
Et c'est difficile à rendre, parce que vous le faites très bien, comme tous les livres qui sont réussis, on ne voit pas qu'on ne réalise pas forcément le travail, c'est un énorme travail pour vous.
Oui, 18 versions en l'occurrence pour ce livre. Et puis.
Là, pardon, je coupe. C'est quoi ? C'est justement quand vous cherchez quand ça danse mal ?
Oui, c'est ça. Quand ça danse mal, que ça ne glisse pas, que ça ne coule pas, que ça ne va pas de soi, parce qu'il faut quand même penser au lecteur. Il doit avancer, il doit tourner les pages. Et puis, quand j'écris, j'ai besoin d'éprouver une certaine fatigue. Il faut que ce soit organique. Par conséquent, quand j'écris, le corps lâche. Je veux dire, pour le premier, je me suis cassé la clavicule. Le deuxième, c'était la cheville. Entre-temps, il y a des infections. Mais voilà, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, qui coince, et qu'en même temps c'est le cœur du sujet.
Je vois Raphaël essayer de réagir. Ça vous arrive, vous, quand vous jouez de la musique, d'avoir le corps qui lâche?
Oui. Oui, tout à fait.
Alors que vous arrivez,
c'est surtout en fait une forme de décompensation après des grandes périodes de stress, notamment des tournées qui peuvent être intenses, où on est loin à l'étranger avec un rythme effréné de concerts, etc. Souvent en rentrant, soit on tombe malade, soit effectivement il y a un pépin physique qui vient. Et c'est souvent dans les moments où justement on s'y attend pas, où on décompresse un peu, où on lâche. Et dès qu'on lâche la pression, en général, ça peut venir. Donc ça m'arrive fréquemment. Pareil, là, il y a 3 mois, suite à une tournée en torse à la cheville, juste sur quelque chose de très bête, etc., etc. Donc je connais entre guillemets le problème.
Comme vous disiez, vous, alors je je reviens à vous, Geoffrine Donadieu. Ça vous appréhendez pas ça pour le troisième ?
Moi, si, si, je me demande ce qui va m'arriver, ce que je vais casser.
Parce que oui, moi j'avais écrit que vous aviez une écriture qui n'était pas très physique, parce que c'est pas vraiment physique, c'est ça, c'est organique. C'est, ouais. Je sais pas quelle différence vous faites entre les deux.
C'est viscéral, c'est, enfin voilà, c'est ce que je dis depuis le départ, enfin depuis une histoire de France, il faut que ça vienne du ventre et que ce ne soit pas intellectualisé. Donc, c'est comme ça que je ressens. Je ne sais pas.
J'ai une question parce que ça me passionne. J'ai l'impression que quand on crée quelque chose, en l'occurrence, quand vous écrivez.
Vous créez de la musique hein, aussi.
Ouais, ouais.
Vous n'êtes pas qu'interprète. Ouais, je suis également. Enfin, je compose aussi. Voilà. Et j'ai l'impression que quand on crée quelque chose, il y a inévitablement une part de nous-mêmes qui vient comme si c'était des espèces de parties de nous qui s'exprimaient aussi et après avec lesquelles on travaille, on chemine, etc. Mais ça vient de, il y a quelque chose qui vient de nous. Et du coup, ma question, c'est à partir du moment où vous avez une idée, où ça se met en place, où vous avez un schéma qui va venir et vous sentez que ça va être ça à votre direction, est-ce que vous êtes vraiment dans une démarche qui va puiser, entre guillemets, j'ai pas envie de dire de l'autobiographique parce que c'est pas ça, mais vraiment qui va puiser des choses que vous connaissez, voilà, intime ou alors des réflexions que vous avez, tout ça, ou est-ce que vous êtes plus dans une démarche fiction à partir du moment où vous avez sorti quelque chose, de les extrapoler énormément et de partir ailleurs, quoi. Quel est le...
Je crois que le rôle du romancier, c'est de d'écrire une société, de photographier par des mots des situations, et donc c'est avoir la capacité comme un comédien de se mettre à la place de l'autre, mais donc de vivre intensément toutes les émotions en fait de chacun et d'arriver à les retranscrire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, comment dire, de la fusion avec les émotions, mais donc les émotions universelles pour qu'elles puissent vraiment parler à tout le monde. Et en même temps, je pense que c'est un petit peu ce que vous faites également lorsque vous jouez. En fait, vous êtes là en train de retranscrire l'émotion qu'un grand compositeur a voulu comment dire, offrir au monde entier, et vous nous faites ce cadeau, et en plus vous composez, donc je crois que c'est le message universel qui réunit tous les artistes, enfin je crois.
Ah oui, mais je comprends tout à fait, et c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un peu... C'est l'éternelle question, un peu d'où vient l'inspiration et tout ça. Et je crois qu'à partir du moment où il y a une idée, c'est un peu pareil en composition, ça vient toujours de quelque part, soit quelque chose qu'on a expérimenté, soit on l'a vu quelque part, soit il y a une dimension du cerveau qui l'a pour X raison, qui l'a enregistré. Et à partir de là, moi notamment en composition, j'aime toujours prendre quelque chose, y mettre un peu de moi et essayer de le rendre aussi différent, enfin d'une certaine façon, de je sais pas, peut-être que si j'étais écrivain j'écrirais de la science-fiction par exemple, c'est d'extrapoler et de rendre des choses que je connais complètement autres après, enfin bon bref, pardon,
non mais totalement, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une part de soi qu'on a envie d'exprimer, et après par exemple moi il y a des choses que j'ai envie de dire, mais ma petite vie personnellement je m'en fiche et puis elle n'intéresserait personne, mais c'est comment sa petite vie peut tout d'un coup devenir en effet universelle et que tout le monde puisse se l'accaparer et en faire quelque chose.
Bien sûr.
Qui gâte d'universel, pardon, je rejoins.
Oui,
je vous laisse reprendre l'interview.
Excellent, vos questions.
Reviens avec nous.
J'aurais pas fait mieux. Mais justement, ce qu'il y a d'universel dans votre livre, c'est l'effort qu'il faut fournir pour être vivant. Parce que c'est un effort, c'est pas... L'une, Odette comme Romy, pour être vivante, qu'est-ce qu'elle donne comme effort, quoi. On a envie de les applaudir quand on referme le livre.
Oui, elles sont dans la vie. C'est vrai que le premier livre, j'étais dans la survie. Le deuxième livre, j'avais envie d'être dans la vie. Et elles croquent la vie toutes les deux. Mais la vie n'est pas simple. Et puis, il faut traverser chaque journée. Elles sont dans cet objectif.
Et pour réagir à ce que disait Raphaël, est-ce que vous êtes, quand vous écrivez, quelque chose de très tenu parce que vous avez cette ligne à tenir, où il y a ce fameux lâcher prise qui permet la créativité, vous arrivez à tenir les deux en même temps?
Alors c'est-à-dire quand je suis devant mon ordinateur?
Ah oui, quand vous écrivez, quand vous relisez,
si je suis dans une certaine tenue.
Ah non, non. Est-ce que la tenir au sens... Oui, pas la manière dont vous habillez.
J'ai compris,
Mais est-ce que vous êtes dans quelque chose de très instinctif où vous lâchez prise?
Ah non, non, justement, je vais être dans quelque chose où je vais être dans quelque chose instinctif où je vais lâcher prise. Mais ça, c'est après avoir lutté contre la tenue qui est là.
Donc vous cassez plutôt les choses tenues pour arriver à...
Oui. Mais donc je vais rester des heures devant la page blanche et je vais me dire mais là t'étais vraiment trop dans le cérébral et puis c'est toi qui dirige. Or il y a un moment il faut que ce soit les personnages qui dirigent et ce point de bascule on peut le sentir à un moment mais c'est après des heures et des heures de contrôle. En fait, il faut lâcher.
Vous avez la même chose en musique ? Si je l'ai encore, je vois réagir.
Oui, ouais. Il y a les mêmes questionnements. Et du coup, j'ai une petite question plus courte. Super. Cette fois, plus courte. Est-ce que quand vous démarrez, vous avez déjà une idée de la forme globale ? Alors là, je parle d'architecture, ouais. De la forme globale. Ou est-ce que vous laissez le fil de l'inspiration se dérouler et vous êtes flexible dans votre cheminement ?
Non, pas du tout. Au début, j'ai créé mes personnages, j'ai des fiches personnages, j'ai l'univers. J'ai vraiment le décor, donc déjà je maîtrise tout l'environnement, j'ai les 4-5 grandes lignes du livre, mais après je laisse vraiment les personnages me diriger, parce que si je connaissais la structure, si je connaissais la fin, etc., il y aurait quelque chose de très scolaire, et moi j'ai arrêté l'école à 16 ans justement, parce que je supportais pas les contraintes, et je crois que j'ai besoin de me laisser un petit peu, ça fait un peu prétentieux, me laisser surprendre par mes personnages.
Frédéric Becbédé a dit qu'à côté de vous, Virginie Despentes est la comtesse de Ségur. Est-ce que ça vous plaît comme comparaison?
Écoutez,
c'est un très bon publicitaire, Frédéric Becbédé. Au moins, il a ça pour lui.
Non, mais écoutez, évidemment, c'est un très bon compliment. Maintenant, j'aurai le succès de Virginie Despentes et je ferai ses ventes. Je serai ravie.
Et est-ce que la comtesse de Ségur ou Virginie Despentes font partie de vos auteurs préférés? En vous lisant, j'ai du mal à savoir qui sont les auteurs que vous aimez.
Écoutez, il y a clairement Marguerite Duras, Annie Ernaux, Marie-Anne Diaye, mais j'adore les nouvelles de Pau, de Marcel Aimé. J'aime également Camus. Enfin, il y a tellement d'auteurs.
Vous avez l'embarras du choix.
Oui.
Il y a un moment, votre Romy dit « Je joue pour me conquérir, je joue pour vivre l'instant, je joue pour me dompter, je joue pour trouver une vérité ». C'est vous ça, non ?
Mais c'est simple, ce texte-là, il y a toute une série de « Je joue ». Je l'ai écrit après le premier roman où justement je n'arrivais pas à démarrer le deuxième roman. Et je me suis dit « Mais à un moment, pose-toi la question, pourquoi tu écris ?» Et j'avais écrit ce texte et à la place de « Je joue », c'était « J'écris pour ». Et donc il est revenu au milieu du deuxième roman et j'ai... tout remplacé par je joue, mais à la base c'était j'écris.
Ah d'accord, donc je joue pour me conquérir, je joue, alors je vais le dire avec j'écris carrément, hein.
Oui.
J'écris pour me conquérir, j'écris pour vivre l'instant à vif, j'écris pour me dompter, j'écris pour trouver une vérité.
Eh bien voilà.
Ça vous va?
C'est parfait.
Eh bien on va écouter une autre fille de l'Est et ce n'est pas Patricia Cass.
Thank you.
c'était mortel. Donc Fishbar, qui est une fille qui vient de l'Est et qui a dit un jour « Je suis dans l'outrance de la pop morte ».
La relève sur Radio Campus Paris.
Je ne sais pas si on est dans l'outrance de la pop morte ou dans la musique classique morte avec vous. On est avec vous, Raphaël Sévère, oui, pardon. Et avec vous, Geoffrine Denadieu, Chienne et Louf chez Gallimard. Alors vous, votre album s'appelle Clarinette Works, avec l'orchestre de chambre de Paris et le quatuor Modigliani. Et l'ensemble est c'est sur le label Mirar. J'ai tout bon ?
Ouais, ouais. Alors, Clarinette Works, c'est dans le sens, c'est un titre très classique, c'est œuvre pour clarinette en fait en anglais. C'est pas la clarinette, ça marche. Je sais pas, c'est vraiment Mozart, les œuvres pour clarinette.
Œuvre pour clarinette. J'ai tellement mal dit que même en anglais j'arrive à mal le dire, dites donc. C'est ça le talent. On va croire que c'est une obsession personnelle, mais c'est juste que j'ai la chance aujourd'hui de recevoir des personnes primées, reconnues, qui prouvent la phrase de Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous, Raphaël Sévère, vous êtes un cas. Je me demande si j'ai lu un article sur vous qui me dit pas que vous êtes un surdoué de la musique. Enfin, tous les journalistes le disent. J'ai lu le virtuose français du 21e siècle d'après Le Monde. C'est pas mal quand même, non ?
Ouais, ouais.
Et alors mieux, Le Figaro a écrit un talent surnaturel aussi virtuose que tendre.
Ah,
comment
ouais,
on s'en remet de tout ça ?
C'est pas mal comme phrase.
Comment on s'en remet ? Non, mais comment on s'en remet, sérieusement ?
Oh bah, on le prend pas trop au sérieux.
Vous les lisez pas ?
Ah bah bon, si bien sûr, parce que bon, c'est flatteur, hein, évidemment, on va pas se le cacher, ça fait plaisir de quand il y a des très bons articles de presse, hein, bien sûr, surtout que c'est le jeu aujourd'hui de la communication de les mettre en valeur et d'essayer d'en tirer avantage entre guillemets, mais après c'est enfin ça veut pas dire grand chose sans vouloir vraiment dénigrer la mm-hmm. presse ou je sais pas quoi, pas du tout, mais en tout cas, faut pas y faire attention du tout.
Ouais. Moi, comme je suis très narcissique et que je ne parle que de moi, je me suis demandé si j'avais des articles comme ça en tant que feignant. Si on disait toute la journée que je suis génie, je travaillerais plus. Ou si, comme éternel insatisfait, je travaillerais encore plus. Alors vous, c'est quoi ? Vous êtes plus feignant que éternel insatisfait ?
J'aurais tendance à choisir entre les deux, à être plutôt éternel insatisfait, même si ça a l'air moins bien comme ça. Mais j'ai plus ce sentiment où quand il y a quelque chose de bien, je profite assez peu et j'ai tout de suite envie de me dire je vais vers quelque chose d'autre et ça va être encore aussi bien, voire mieux. Enfin, j'essaye toujours de rebondir entre guillemets.
Et peut-être c'est ça aussi qui permet d'être lucide sur le petit jeu des critiques, de se dire finalement c'est un petit jeu.
C'est complètement un petit jeu et comme j'ai commencé très tôt ce jeu-là, aujourd'hui avec Mirare on a quand même sorti 8 disques, donc je vois bien en
fait, il n'a pas 30 ans, je préviens tout le monde.
Il y en a qui fonctionnent très fort et puis il y en a qui passent un peu entre les mailles du filet et la qualité du disque intrinsèque n'entre pas toujours en compte, donc c'est là où il faut prendre beaucoup de recul sur les choses.
Comment avez-vous rencontré ce que je considère que, quand je disais que c'était Noël et que j'étais content parce que c'était vraiment sincère, parce que je considère que vous jouez un des plus beaux instruments du monde, peut-être avec le piano.
Comment vous l'avez rencontré ? Là, je suis d'accord. Là, pour le coup, la clarinette, je l'ai rencontré sans surprise. Vraiment, j'assume. Hein, mon père est clarinettiste. Moi, j'ai voulu faire comme lui quand j'étais petit. Voilà. C'est pas original, mais c'est comme ça.
Il y a beaucoup de familles dans la musique classique, je crois. Il y a beaucoup de lignées.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, la petite anecdote est que mon père ne voulait pas que je fasse de la clarinette, justement parce que lui venait pour le coup d'une famille non musicienne à la base, et il a vraiment eu un parcours un peu plus difficile, où il a fallu qu'il se batte pour que sa famille accepte qu'il fasse de la musique son chemin de vie, etc. Et donc ça l'embêtait un peu que son fils arrive et puis dise, moi je vais faire comme papa, voilà, terminé. Et il m'a fait essayer plusieurs instruments, et puis au final, apparemment j'ai beaucoup insisté pour la clarinette.
Et c'est plus et fort que moi, parce que moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, je me suis retrouvé avec un accordéon entre les pattes. Mais justement, peut-être qu'il vous a aussi montré la voie, il vous a peut-être accéléré, vous croyez, le fait d'avoir quelqu'un
Oui.
qui...
Ouais, bien sûr. Non, mais je crois que ça commence très très tôt, c'est le fait d'entendre ce son-là au quotidien, chez soi, entendre son père jouer, travailler, etc., être baigné dans la musique, fait qu'après, quand on y arrive, il y a quelque chose de plus naturel, parce que c'est pas une nouveauté, c'est comme un prolongement. Donc du coup, ça accélère les choses, ça c'est sûr.
Je veux dire que c'était presque... Enfin,
non, je veux dire, on dit que parfois les bébés entendent les sons, donc si ça se trouve déjà dans le ventre de votre mère... Vous entendez déjà votre père répéter, donc c'était déjà très présent, c'était un son tout à fait.
J'allais dire que c'était un peu comme une langue maternelle pour vous, étonnamment.
Ouais, et puis les musiciens, bon, je vais pas dire vivant en vase clos, mais je vais dire ayant souvent des amis musiciens, vraiment l'entourage était musical. Et du coup, moi j'avais naturellement envie de faire ça. Pour moi, c'était logique en fait, il y avait une forme de logique.
Comme dit Julie Depardieu, les bouchers ont des amis bouchers aussi.
Voilà, c'est un peu ça. La rupture aurait été de ne pas en faire, pour le coup.
Et comment avez-vous rencontré le plus grand musicien? Parce que là aussi, j'assume mes choix. Donc la clarinette, Mozart et Geoffrey de Nonadieu. Le plus grand musicien de l'histoire du monde, Mozart. C'est le plus grand génie, Mozart, on peut pas dire autre chose.
Ouais, plusieurs. Non, il y en a plusieurs, mais Mozart, évidemment, c'est.
Vous l'avez rencontré comment?
Est-ce qu'il est sympa?
Dans le métro, ligne 5, je fais.
Il y avait quelqu'un qui jouait au violon du Mozart?
Non, alors, honnêtement, la première fois que j'ai entendu du Mozart, ça je pourrais pas vous dire, ça devait être dans les. Déjà bébé, hein, dans les trucs de bébé, là où on découvre la musique, il y a du Mozart et tout ça. Après, on a la chance en tant que clarinettiste que Mozart nous ait écrit des œuvres vraiment somptueuses, avec notamment le concerto pour clarinette, qui est quand même un tube de la musique classique, qui fait partie des œuvres connues de tous, où on fredonne l'air, on le connaît sans le connaître, entre guillemets, comme les quatre saisons de Vivaldi, comme certaines œuvres de Bach, etc. Et donc, quand on est clarinettiste, on est amené à travailler et à jouer du Mozart déjà très jeune. Donc c'est une rencontre, en somme, toute classique.
Alors on va écouter.
C'est le cas de le dire.
Voilà.
Je ne contrôle plus rien. Continuer, c'est très bien comme ça. On va écouter un extrait de Renaud Capuçon interviewé par Karine Bécard. C'est pas un violoniste, mais il parle aussi de Mozart. Écoutez.
Capuçon, qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous amuse encore dans Mozart? C'est un violoniste.
Vous savez, Mozart, c'est un compositeur universel. C'est un compositeur qui accompagne nos tout débuts quand on est très très jeune et qui nous accompagne jusqu'à la fin, je pense. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on joue bien Mozart quand on est très innocent et très jeune, et certainement à la fin de sa vie quand on a tout fait et que finalement on peut jouer. Voilà. Et entre deux, on rame un peu.
Donc vous êtes entre deux là,
non,
ou pas?
Oui, enfin, je suis complètement entre deux. Mais non, ça fait de. Là, je dis ça souvent à mes élèves pour leur faire comprendre que oui, c'est difficile. Parce qu'il faut en fait être totalement... on est à découvert dans Mozart, et il faut être extrêmement naturel. Non, mais ce qui me fait extrêmement plaisir dans ce concert...
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Voilà, c'était donc un extrait de Renaud Capuçon. Vous êtes d'accord avec lui?
Ouais, ça fait plaisir d'entendre Renaud, mais il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, on joue.
Vous êtes innocent,
bien,
ou vous êtes en fin de vie, rassurez-moi. Vous êtes
innocent, plutôt. Je crois ni l'un ni l'autre.
Dans l'entre-deux.
Mais dans l'entre-deux. Mais en fait, il a un peu raison dans la mesure où Mozart a une musique tellement naturelle, tellement simple, qu'en fait, on la joue souvent bien sans se poser de questions. Et effectivement, c'est dans le milieu de sa vie où on se pose le plus de questions. Et en fait, c'est là où si on intellectualise trop son interprétation de Mozart, on va...
Alors, retrouve un point commun entre vous, là, alors. Faut pas être trop cérébral ?
Pas dans Mozart, non.
Alors, justement, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Il y a un moment, vous me posiez la question, justement, aussi sur le lâcher-prise. Donc, il y a un moment, je suppose qu'il y a quelque chose de très scolaire. Il faut lire la partition, il faut la jouer. Et puis, il y a un moment, est-ce qu'il faut se laisser... emporter, dépasser la partition pour vraiment l'incarner à sa façon. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où vous ressentez, alors un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, le point de bascule où il faut se laisser emporter? Est-ce que ce point de bascule, vous le sentez arriver, en fait?
Ah bah oui, c'est l'entrée sur scène, hein. C'est l'entrée sur scène. En fait, c'est exactement ça. Nous, on fait souvent des comparaisons avec le sport, entre musique et sport, dans la mesure où il y a un aspect très technique dans la musique, où on a beaucoup... Enfin, les gammes, c'est comme un sportif qui va vraiment s'entraîner tous les jours à faire quelque chose, à faire sa pratique, etc. Et nous, on a une approche souvent très technique de beaucoup de choses, et où on va... beaucoup les travailler, les répéter, etc., etc. Et au bout d'un moment, on nous dit, bah, maintenant que vous avez ce bagage, qui en fait, quoi qu'il arrive au final, vous permet d'être presque en pilote automatique, mmh. et de toute façon, vous n'allez pas vous tromper, il n'y aura pas de couac ou que sais-je, ça va rouler. À partir de maintenant, vous pouvez oublier tout ça, vous l'avez en vous, ce bagage technique, sur une œuvre, par exemple, qu'on apprend vraiment au point qu'on la connaît par cœur, de toute façon, etc. Et maintenant, vous pouvez voyager, c'est-à-dire vous arrivez sur scène, vous entrez dans une forme un petit peu de transe, vous êtes dans votre bulle.
Encore une transe.
Nous sommes qu'en transe.
Et après, vous vous délivrez, en fait, via tout ce que vous avez travaillé, tout ce bagage qui est là, qui est présent, mais vous délivrez quelque chose de... à la fois ce que vous pensez être l'héritage du compositeur, ce qu'il a voulu dire et de sa machin, et inévitablement quelque chose de vous, de l'instant aussi, de votre état d'esprit, de si vous êtes par exemple très mal en point dans un chagrin amoureux, tout ça, etc., vous allez avoir une approche très différente que si vous êtes en pleine forme, rayonnant et tout ça. C'est inévitable et ça fait la beauté du truc. Et c'est pareil, par exemple, puisqu'il y avait la Coupe du Monde de football, là, un footballeur qui va vraiment travailler ses choses techniques tout le temps, etc., une fois qu'il est sur le terrain et qu'à un moment, il oublie tout, il peut se transcender, avoir une étincelle et faire quelque chose de fou, en fait, quelque part. Et nous, c'est un peu pareil dans la musique. Je sais pas si c'est très clair, mais...
Merci
on
beaucoup.
Va quand même vous écouter un peu, Raphaël, avec l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Lars Vogt, pardon. Et donc c'est un extrait du concerto pour clarinette de Mozart. Alors voilà, c'est un extrait de l'Adagio du concerto pour clarinette en La majeur Köchel 622 de Mozart, interprété par Raphaël Sévère avec l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Lars Vogt. Je vais vous dire un truc, Mozart, quand je doute de l'humanité, j'écoute, à chaque fois que j'écoute Mozart, j'ai plus de doute. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi, ça me réconcilie avec l'humanité. Alors, on va juste parler, parler de Lars Vogt, qui, c'est son dernier enregistrement.
Ouais, absolument.
Donc c'est lui qui dirigeait l'orchestre.
Tout à fait. Et puis, en fait, à ce moment-là, il savait déjà, il avait déjà rendu public qu'il avait une maladie grave et que c'était... il en avait, entre guillemets, plus pour très longtemps. Il le savait et malgré tout, il est arrivé avec une énergie incroyable, très communicative. Et puis justement, je crois qu'il nous a tous portés. Il a mis beaucoup de lui-même dans cet enregistrement. Et du coup, bah, pour moi, c'était une chance extraordinaire d'avoir pu faire ça avec lui.
On retrouve votre personnage, hein, Geoffrey de Donadieu. Là, je ne l'ai pas fait exprès non plus, mais est-ce qu'il faut être près de la mort pour savoir aussi bien le prix de la vie ?
Je pense que pour bien jouer, mais que ce soit de la musique ou sur scène ou bien écrire, il y a une forme d'urgence à avoir une certaine nécessité. Et quand j'écris, enfin, pour chaque phrase, alors je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais à chaque fois je me dis que c'est la dernière et qu'elle doit être excellente parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres.
C'est une exigence qui est difficile à tenir.
Nous sommes bien d'accord.
Raphaël Sévère, vous parliez juste avant de comment, de la manière dont on apprend la technique pour pouvoir un jour arriver, l'oublier et interpréter. Là, vous êtes dans une disposition particulière, vous jouez avec un orchestre. J'imagine que l'orchestre tous les soirs ne vous envoie pas le même son, ne vous envoie pas le même tempo, même s'il y a des variations infimes que moi, j'entendrais peut-être pas.
Ouais,
ça a un effet sur votre jeu, vous n'êtes pas seul finalement.
Ah bien sûr, ah bah nous on s'adapte en toutes circonstances de toute façon et puis on essaye de rentrer, en fait on est ouvert, quand on entre sur scène on est dans une ouverture et où on va, parfois on se fait aussi des petites surprises quand on se connaît et tout ça, donc on va vraiment être dans l'accueil des idées qu'on nous envoie et tout de suite nous on fait avec et puis on essaye de rendre tout ça cohérent et qu'il y ait une forme de logique dans tout ça, mais c'est vrai que si on sent que par exemple l'orchestre d'un coup ils veulent accélérer, ils sont dans un autre mouvement, tout ça, moi j'essaye de me convaincre intérieurement que ah d'accord, donc en fait ce qu'ils me proposent là c'est la meilleure chose sur le moment, donc j'y vais parce que c'est la meilleure chose et faut jamais être dans une forme de lutte, sinon ça marche pas, sinon
et là il y a le chef aussi j'imagine qui aussi modère tout ça, tempère tout ça et,
bien sûr,
et ouais, vous, ouais, vous aide à continuer, ouais, à faire un ensemble cohérent parce que faut, ouais, que ouais, vous soyez, fait, faut, ouais, que l'orchestre et vous soyez dans la même soirée, j'ai envie de dire dans le même moment,
c'est mieux
ça arrive qu'on soit complètement à côté.
Oh, ça peut arriver. Après, dans Mozart, c'est quand même rare. Mais par contre, dans des œuvres plus modernes qui pourraient être vraiment très difficiles ou tout ça, oui, ça arrive qu'on soit moins d'accord sur certaines choses. Ouais.
Alors, je vous ai pas du tout demandé, mais c'est vous qui avez eu envie de faire ce disque ou c'est votre maison de disques qui, après, alors, je crois que vous avez dit 8 disques tout à l'heure.
Oui, c'est
qui est venu vous dire, bon, tu nous le fais quand ton Mozart ? Vous en avez peut-être déjà enregistré. J'ai peur d'avoir dit une
bêtise. C'était un peu, non, c'était un peu les deux, c'est-à-dire, en tant que clarinettiste, le concerto de Mozart, c'est un peu l'œuvre la plus connue qu'on peut jouer, qu'on peut enregistrer. Et donc, ça fait longtemps qu'on savait qu'on allait le faire à un moment et on attendait le bon moment, la bonne opportunité. Et c'est vrai qu'au final, on l'a fait un tout petit peu tarder parce que beaucoup de gens attendaient ça avant. Et je crois qu'on a bien fait parce que justement la configuration là était vraiment idéale.
Tout à l'heure on plaisantait des louanges, enfin moi je plaisantais, vous n'en plaisantez pas, des louanges que vous avez reçues, mais j'imagine qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à des critiques aussi élogieuses sans avoir travaillé de façon totale, un peu comme Geoffrine qui a écrit tous les jours sa dernière phrase. J'imagine que votre enfance, votre adolescence, c'est un engagement total pour la musique, vous n'avez rien fait d'autre, vous étiez tout le temps dans la musique. Si en plus vous nous dites que non, là vous allez nous énerver. Et que en plus vous êtes champion de foot.
Non, mais alors j'ai envie de vous répondre oui parce que.
Vous répondez sur tout ce que vous voulez, bien sûr.
Non, parce que la musique effectivement ne quittait jamais vraiment mon esprit. Donc ça c'est sûr. Après la clarinette, c'est un instrument. qui n'est pas comme par exemple le piano ou le violon où on peut en faire vraiment 10 heures, 12 heures tous les jours. La clarinette, on a des limites musculaires, c'est ouais. beaucoup plus physique, et donc on va être limité à 4 heures environ par jour. Donc en gros, c'est pas une vie vraiment de moine où on va s'enfermer, etc.
Répéter.
Voilà, parce que bien sûr, il y avait du dévouement, bien sûr, il y a eu aussi des sacrifices, bien sûr, on m'a sorti de l'école très très jeune, etc., tout ça, mais voilà, c'était pas une vie où je me suis retrouvé à faire des journées pas possibles que à travailler, etc., j'avais quand même des amis, enfin voilà.
Alors par contre, vous avez été très tôt dans le circuit international,
ouais.
des concerts,
ouais.
Ça c'est, là c'est encore autre chose, c'est... Mmh.
Ouais, c'est vrai, les premières expériences à 10-11 ans, et puis à partir de 15 ans, un calendrier de concert. Hein,
15 ans, c'est la première victoire de la musique quand même, passage, on peut le dire.
Oui.
Ouais, mais il est agaçant, hein, je suis d'accord. Et en plus, il est sympathique, c'est ça le pire.
Il a tout pour lui. Mais j'ai une petite question, parce que je ne connais pas du tout le milieu, mais alors comment on est repéré si jeune et qu'on a une carrière internationale très tôt? Parce que je me dis, il faut toujours une rencontre. Mais je me dis, comment cette rencontre se fait? Comment
Alors, c'est un ensemble de rencontres dans la musique. Mais là, en l'occurrence, nous, on a des marchepieds que sont les concours internationaux.
D'accord.
Et donc, moi, il y en a eu pas mal. Et jusqu'aux victoires de la musique, en fait. Et ça, c'est un vivier où on repère justement les jeunes talents. Et après, quand on repère quelqu'un, il y a un phénomène ensuite de bouche à oreille. Il y a des rencontres qui vont se faire, forcément, en fait. Et puis, c'est des rencontres avec des organisateurs, des labels, des agents, des musiciens très connus qui vont avoir un coup de cœur sur vous et puis vont vous inviter à jouer avec eux, etc. Après, c'est un ensemble de choses. Mais en musique, c'est vraiment les concours qui vont aider. C'est rare de voir des gens connus qui n'ont pas gagné de concours, entre guillemets.
D'accord, merci.
Ben, sachez que moi, on va parler de moi encore, mais ça m'amuse. C'est quoi le seul concours que j'ai fait? Je suis parti, j'étais fébrile et j'ai même pas pu finir le morceau tellement je trouvais la pression horrible.
Ouais, c'est
l'impression
un exercice
qui est atroce dans les concours de musique.
Je suis absolument d'accord.
C'est à tenir plus, ça à 10 ans, 11 ans, plus, c'est un mental de malade, je pense qu'il faut avoir.
Il y a des jugements qui sont horriblement subjectifs sur des choses où, en général, c'est rare que les jurés réussissent à se dire « ce n'est pas ma conception, moi je ne jouerai pas du tout ça comme ça, mais c'est vraiment très bien ». Quand même, c'est
cohérent. Il faut savoir s'adapter au jury qu'on a.
Donc, je vais quand même voter pour le candidat. Ça, c'est extrêmement rare. Donc, on a un jeu qu'on standardise pour les concours, parce que malheureusement, c'est trop rare. Et puis, c'est Bartok qui disait que les concours, c'était pour les chevaux, mais pas pour les musiciens.
Eh bien, je suis content, je ne suis pas un cheval.
Mais malheureusement, on a du mal à se sortir de ce système. Et d'autant plus qu'en fait, voilà, quand on gagne un concours, derrière, on a des tournées, on a des portes ouvertes. Et donc, on a beaucoup de mal. Il faut savoir un petit peu... aller au charbon, se standardiser le temps d'un moment, et puis voilà, faire ça très bien, et puis une fois que c'est derrière soi, là après on est tranquille, on fait ce qu'on veut.
Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait jouer que 4 heures par jour de la clarinette, je reviens à ça. On travaille son souffle, vous faites du sport pour travailler votre souffle, vous travaillez comment?
Le sport c'est la clarinette, c'est-à-dire que la clarinette me permet d'être beaucoup plus performant en sport.
En jogging.
Ah oui, non mais vraiment.
Il a gagné le marathon parce qu'il jouait de la clarinette.
Non mais on a un souffle qui est plus développé que la moyenne. Avec un rythme cardiaque très bas. Moi, dès mon jeune âge, les médecins, à chaque fois les généralistes, à chaque fois qu'ils écoutaient le pouls, ils me disaient toujours, mais vous êtes sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Je disais, non, c'est de la clarinette, c'est ça. Donc ça baisse le rythme cardiaque en effet, et puis c'est la gestion en fait qui est la plus dure. Prendre la plus grande inspiration et tenir le plus longtemps et rester en apnée le plus longtemps, c'est pas ça qui est difficile. C'est comment gérer sur 1h30 par exemple de concert sa respiration, parce qu'on va prendre une certaine quantité d'air Et en fait, on va pas tout souffler dans une phrase, et derrière, on va re-respirer pour en faire une autre, et on peut très rapidement avoir trop d'air, mais vraiment très très vite. Et donc, c'est la gestion de tout ça sur un long temps qui est difficile et qui nous fait travailler.
Et ça, ça s'apprend. Trucs, ouais. Ça s'apprend au conservatoire, on apprend.
C'est plutôt sur le tas.
Parce que moi, je crois que c'est Aurel Martin, je ne vais pas dire de bêtises, le pianiste qui était venu ici, qui nous avait expliqué comment aujourd'hui, dans les conservatoires, on travaillait pour que les pianistes se fassent moins mal aux mains avec des ostéopathes. Et je me demandais s'il y avait la même chose pour clarinette. Parce que là encore, point commun involontaire avec Geoffrine, c'est que vous, quand vous jouez avec tout votre corps. Enfin, il faut regarder les vidéos sur Internet, c'est incroyable. vous soufflez pas dans un tube, hein. C'est tout le corps qui est là. On voit bien que ça vient de loin.
Bah, en fait, aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, l'enseignement. Parce qu'avant, on nous a un peu traumatisés avec la respiration du ventre, en disant qu'il faut respirer en bas, le ventre, alors que c'est la plus grosse connerie imaginable pour la clarinette. C'est-à-dire qu'il faut respirer de tout son corps, il faut respirer aussi d'en haut et de derrière. Il faut remplir le diaphragme. Le diaphragme, il se remplit pas par une respiration abdominale. Là, on se bride beaucoup. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et qui l'ont enseigné derrière. Et en fait, quand vous développez la respiration, tout le spectre, d'un coup, ça vous change la donne.
Vous avez une question qui n'a plus rien à voir. Vous avez travaillé comment pendant le Covid ? Parce que vous ne pouviez plus bouger, vous ne pouviez plus donner de concert. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et même comment vous avez travaillé votre art ? Vous avez vous astreigné chez vous tous les jours sans pouvoir faire de représentation ?
Ouais, en fait, pendant le premier confinement, oui, parce que c'était assez court au final. D'abord, on nous a dit ça va durer 3 semaines ou je sais plus, 1 mois. Et donc, oui, tout le monde essayait de garder le rythme, un peu comme les sportifs qui continuent aussi de s'entraîner, voilà. Ce qui a été dur, c'était après, c'était l'année 2020-2021, quand il y avait les couvre-feux et tout ça, et où là, il n'y a pas eu de concert pendant 6-8 mois. Ça, c'était vraiment, vraiment dur pour le mental. Alors moi, je peux pas me plaindre parce que voilà, je faisais partie des rares plutôt bien lotis où on jouait quand même, on faisait quand même des petits événements en streaming. Il y avait des choses, voilà. Mais par contre, pour l'ensemble des musiciens, c'était vraiment une sale période.
Et là, c'est reparti,
ouais.
Bon, c'est l'essentiel. Vous êtes aussi compositeur. Vous avez eu besoin d'écrire aussi?
Ouais, en fait, je le fais depuis que je suis petit, mais j'assumais pas, et donc j'assume depuis une dizaine d'années de plus en plus. Donc...
J'ai un peu été surpris.
Mais ouais. Non, parce que c'est sûr qu'en musique, en fait, peut-être contrairement à l'écriture, alors ça c'est intéressant, c'est un parallèle intéressant, on a vraiment évolué le langage musical pour le rendre de plus en plus contemporain, abstrait.
D'accord.
Et en fait, jusqu'à, on va dire, il y a une évolution constante jusqu'à Boulez et l'IRCAM, qui est constante. C'est une évolution, vraiment, on complexifie de plus en plus le langage musical. Jusque dans les années 80, je dirais. En fait, à partir des années 80, on est arrivé un peu au bout du jeu. C'est-à-dire, on est arrivé un peu à la fin. C'est devenu, après, des choses conceptuelles. Et donc, aujourd'hui, en fait, pour continuer d'innover, entre guillemets, on va chercher ailleurs, mais plus dans le langage musical en lui-même. Moi, j'étais très intimidé par ça, en me disant, de toute façon... tout le monde a déjà écrit ce qu'il y avait à écrire, jusqu'à Stockhausen, Ligeti, tout ça, parce qu'on nous apprend que quand on compose, il faut innover. C'était vraiment le truc inhérent à la composition. Et en fait, c'était une fois qu'on m'a dit « Non, mais tu sais, il y a encore plein d'autres belles choses à écrire dans un langage musical, certes moderne, mais qui ne va pas évolutionner encore. » C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Bon, bah en fait, je peux m'assumer, quoi. » Je sais pas si en écriture il y a ce phénomène un peu d'intimidation.
Si, forcément, parce que j'avais lu beaucoup de livres, que ce soit des grands romanciers ou des grands dramaturges, donc il y a déjà un poids sur ses épaules, puisqu'on a envie de faire partie de cette lignée, mais en même temps ce n'est pas le même contexte, la même époque, et on a envie de faire comme eux. Mais je veux dire, par exemple, j'adore Tchekhov, mais je n'écrirai jamais comme Tchekhov, en fait.
C'est...
Mais voilà, c'est une autre langue. Et puis voilà, il y a un moment, il faut s'autoriser. Mais Là, c'est...
Il y a peut-être eu la même chose avec le nouveau roman à un moment, qui
oui.
était dans une démarche peut-être un peu cérébrale.
Bah oui, ils ont carrément été dans une démarche. Finalement, le nouveau roman n'est pas la période que l'on garde le plus.
Duras l'a un peu fréquenté, mais que vous citiez tout à l'heure en
mais
modèle.
Mais c'est bien une des seules qui.
Pour faire sa littérature.
Et puis, elle a inventé sa langue, et je crois que voilà, on est juste imprégné par un univers, et puis après, on va se l'approprier. Mais évidemment, tout a été fait, tout a été écrit et composé. Et c'est comment le faire avec un bout de soi, finalement.
Comme j'aime bien jouer, on va finir en citant un auteur contemporain qui a écrit « Je joue pour me conquérir, je joue pour vivre l'instant à vivre, je joue pour me dompter, je joue pour trouver une vérité ». Est-ce que c'est vrai aussi pour vous, Raphaël Sévère? Peut-être vous voulez revoir le texte.
Ah bah c'est... Non, je l'ai en mémoire. C'est une phrase qui, pour le coup, est vraiment universelle, je pense.
On a dit donc,
alors là, je termine avec un très beau cadeau pour 2022. Merci
la part,
Raphaël.
D'un talent surnaturel aussi virtuose que tendre.
Oui, en plus de la part de quelqu'un de surnaturel. Bon. C'est...
Merci d'avoir été mon cadeau de Noël. Je tiens à dire qu'en plus, vous avez des superbes voix tous les deux au casque. C'était un plaisir de vous écouter.
Donc, vraiment, formidable. Alors.
On finit l'année en beauté. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Voilà, c'était La Relève. L'émission était produite et présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Alison. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À 19h, je ne sais pas ce que vous retrouverez. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a du monde. Et en attendant, c'est le programme musical de Radio Campus Paris. Bonne soirée. Et alors, rendez-vous en 2023.